France Musique. France Musique, les grands entretiens. Laurent Villarem.
Je m'appelle David Grimal. Je suis né le 9 février 1973 à Châtenay-Malabry. Et je suis violoniste et chef d'orchestre, pas comme les autres.
Un extrait de Laurence d'Arabie, parce que c'est dans un désert que vous avez eu l'idée des dissonances. Allez.
C'est exactement ça.
C'est vous en train de réfléchir.
C'est ça.
Après une sorte de traversée du désert que vous avez eu l'idée,
hop,
comme Laurence d'Arabie.
Exactement ça. En fait, c'est que je crois que quand on vit des choses négatives, il faut du temps pour les ressortir. Vous avez des émotions, vous avez des traumatismes, ils s'enchaînent, et il faut des années en réalité pour les digérer. Enfin, c'est comme la pollution des sols, il faut le temps que le biotope se refasse.
Comment vous étiez ? Vous étiez en mauvais état ?
Ouais, j'étais en mauvais état. Effectivement, il y avait trop de choses négatives qui m'étaient arrivées, je crois. Et donc, la musique était un exutoire, mais le métier ne me donnait pas le réconfort dont j'avais sans doute besoin au niveau des relations humaines pour aller plus loin et après ouvrir sur la création des dissonances.
Mais c'était quoi c'était les hôtels, vous étiez tout seul
Oui, puis des relations finalement assez frelatées, assez conditionnées par des choses, des nécessités non essentielles. Marketing, voilà, de jouer le jeu, à jouer le jeu, mais j'avais pas envie de jouer le jeu, en fait, tout simplement, parce que pour moi c'était pas ça la vie, parce que j'avais vécu peut-être des choses trop dures pour arriver à supporter ce côté à la fois mondain, superficiel, commercial, sans intérêt en réalité pour moi. Et donc, vers 33 ans ou 34 ans, je sais plus, je suis parti faire un trek, alors il y avait pas la musique de Laurence d'Arabie, malheureusement, mais j'étais à peu près comme Laurence d'Arabie, sauf que je marchais. Et à cette époque-là, on pouvait encore se balader dans le sud de la Libye. C'était magnifique.
C'était en Libye, ouais.
Et donc, j'ai marché. Et je me suis dit, il faut que je réfléchisse. Bon, évidemment, quand j'ai marché, j'arrivais absolument pas à réfléchir à quoi que ce soit. Donc, j'étais d'ailleurs, c'était drôle parce que j'ai rencontré à cette occasion Frédéric Mazella, qui, à l'issue de ce trek, allait fonder Blablacar.
Ah bah,
voilà, donc c'était très sympa.
Tous
les deux, on était à peu près au même âge et on se disait qu'il fallait qu'on réfléchisse. Et puis on n'avait absolument pas à réfléchir, donc on marchait. Et pendant ce temps-là, le cerveau a fait de la place disponible et on a fait tous les deux. Alors lui, il a fait cette plateforme en fait qui réunit des gens, et puis moi, j'ai créé aussi une autre plateforme qui est les dissonances, qui réunit des gens aussi d'une autre manière. Mais ça m'est apparu comme une évidence en rentrant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Et en fait, il fallait que je retrouve le chemin des autres. Alors, on retrouve peut-être la psychanalyse mise en route depuis le début de ces entretiens. Et le chemin des autres dans la musique classique, ça veut dire décloisonner. Ça veut dire que ça faisait longtemps que je me disais, mais je comprends pas, dans cet orchestre, il y a des merveilleux musiciens. Puis là, j'entends un soliste, puis il n'est pas du tout merveilleux. Je me retrouve en musique de chambre, il n'y a que des égos, il n'y a que des problèmes. Je vois, enfin bon. Et je me disais, mais il faut décloisonner, il faut que chacun laisse son égo et ses armes au vestiaire et qu'on arrive à créer une plateforme dans laquelle la musique est au centre, comme ce que j'ai connu quand j'étais étudiant. Et donc, de fil en aiguille, et petit à petit, l'aventure des dissonances s'est mise en route.
David Grimal, si vous nous expliquez le concept des dissonances, donc c'est un orchestre de musiciens qui viennent pour leur plaisir et qui jouent sans chef.
Alors c'est pas tout à fait ça. C'est un orchestre sans chef d'orchestre au sens où on l'entend, c'est-à-dire que personne ne va battre la mesure au concert. Donc il n'y a pas un individu qui va incarner l'interprétation au moment du concert. Mais c'est un orchestre avec chef, puisque je fais un travail de chef d'orchestre pendant les répétitions. Donc je suis à la fois assis à ma chaise, mais je mène le travail à la fois sur la conception, la construction, les équilibres, mettre les musiciens en connexion les uns avec les autres, faire travailler tout simplement l'orchestre, de façon à ce que au moment des concerts, chaque musicien soit chef, d'une certaine manière. Donc ce n'est pas une aventure collective au sens où chacun des musiciens a son idée et puis ça va partir dans tous les sens. Non, je prends la responsabilité du travail, de la direction musicale, de la direction artistique, et je vais emmener l'orchestre à un certain point de conscience collective qui va nous permettre ensuite de jouer comme en musique de chambre. C'est-à-dire qu'en quatuor ou en quintette, si on n'a pas beaucoup de temps, il y a forcément un musicien qui va un peu quand même cadrer les choses. Seulement là, c'est à 90 ou à 100. Donc je ne dirais pas que c'est sans chef d'orchestre, mais c'est avec un chef d'orchestre pas comme les autres.
En tout cas, pour le public, c'est assez fascinant. Son regard se décentre du regard de l'estrade et il se met à regarder les musiciens.
Voilà.
Chose incroyable.
Voilà. Mais parce que selon le vieux proverbe africain, si tu veux aider quelqu'un, ne lui donne pas du poisson, apprends-lui à pêcher. Et donc mon idée, c'est vraiment qu'à la fin d'une session, tous les musiciens soient augmentés et que le public vive...
En salaire ?
Augmenté en tant qu'eux-mêmes. Okay. Et que j'aimerais bien en salaire, mais pour ça, il faudrait que les dissonances soient...
On va peut-être en parler après,
soient
de ça.
Soient augmentées. Mais que le public lui-même... Mais en fait, c'est quand même les musiciens qui jouent. C'est quand même invraisemblable, cette histoire-là. Donc là, pour une fois, le public s'en rend compte.
Les grands entretiens de David Grimal.
Vous revenez de Libye à Paris. Comment ça se passe? Vous rencontrez des fondateurs, des mécènes? Comment l'aventure se met en marche?
Au départ, ça a commencé. On a commencé tout petit. Et on a commencé par un concert organisé au profit des sans-abri dans l'église Saint-Leu à Paris, où je vais d'ailleurs jouer cette semaine pour inaugurer la 15e saison de concert. Et donc j'ai créé une saison de concert petit à petit là-bas avec des amis. Et nous avons fondé les dissonances dans cette église. Alors, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans, un lien qui me paraissait évident, de remettre la musique entre les gens, remettre la musique entre les musiciens déjà, et puis remettre la musique et la culture là où la société a failli d'une certaine manière. Pour moi, ça correspond à la même déshumanisation de l'homme, d'être capable de laisser des gens mourir sur le trottoir devant des boutiques où on s'en vend des sacs à main à plusieurs milliers d'euros, avec des gens qui passent sans les voir, ou avoir des musiciens qui jouent dans des orchestres sans s'écouter, sans se regarder, sans même se parler au bout d'un moment. Pour moi, c'est la même déshumanisation, c'est-à-dire une sorte d'indifférence à soi et donc une sorte d'indifférence à l'autre. Et donc c'était très important pour moi que ça se crée là-bas. Et en fait, les choses se sont développées de manière parallèle, je dirais.
Parce qu'en fait, vous avez fait les dissonances pour vous aussi. C'est en vous aidant vous que ça a aidé aussi, entre guillemets, les autres. C'est un petit peu...
Mais bien sûr, j'ai fait les choses pour moi. On fait toujours les choses pour soi. Et je vois pas où est le problème, d'ailleurs.
Ah, c'est aucun problème, c'est super.
C'est-à-dire que c'est un plaisir fou. Chacun trouve son plaisir dans un endroit différent. Moi, je sais que j'ai un plaisir fou, et je l'ai eu encore là il y a quelques semaines quand on a fait une grande tournée avec le Sac du Printemps, un plaisir fou quand il y a cette espèce de joie collective. Ça me rend extrêmement heureux. C'est comme une drogue dure pour moi. Donc oui, c'est très égoïste.
Par rapport aux Margéniaux, l'association pour ses concerts pour les sans-abri dans l'église Saint-Leu, il y a aussi une démarche de responsabilisation, entre guillemets, si on appelle ça comme ça, où chacun met la main à la pâte.
Oui, il y a une démarche, il y a un partage. C'est-à-dire que les choses sont toujours, effectivement, la responsabilisation, c'est un grand mot des dissonances aussi. Et c'est-à-dire qu'on travaille avec des sans-abri qui nous aident à organiser, avec les affiches, avec la vente des disques, avec la quête, avec l'organisation d'un pot à chaque fois pour que le public, les musiciens et sans-abri se rencontrent. Donc c'est vraiment un lieu de partage, mais de partage, effectivement, dans l'organisation également. Et puis après, responsabilisation. L'argent que nous collectons à la fin des concerts sert à aider des gens, des personnes en très grande précarité, qui veulent s'en sortir. C'est-à-dire que j'ai dit dès le départ que je ne voulais pas créer une énième association qui va maintenir et aider les gens à se maintenir dans leur misère. Ces associations sont indispensables pour que ces gens ne meurent pas, mais c'était pas là que je voulais être. Et c'était pas là non plus que je mettais la musique. Je mettais la musique et la culture comme quelque chose qui va réanimer l'âme et l'esprit de quelqu'un. Et lui redonner en fait la lumière dont il a besoin pour retrouver des forces. On a fait des musiques traditionnelles, on a fait du jazz, on a fait de la danse, on a fait du théâtre, on a fait beaucoup de choses dans cette saison. Je veux dire, il y a eu Nathalie Dessay, il y a eu Charles Berling, il y a eu une compagnie de danse, il y a eu du jazz avec Joël Léandre, avec ma sœur qui est venue jouer.
Oui.
Il y a eu de la musique baroque avec Christophe Coin. Il y a eu beaucoup de gens. Puis c'est la musique vivante, acoustique, non commerciale d'une certaine manière. Et peut-être cette qualité d'expression-là va peut-être appeler quelque chose d'autre dans les individus, en tout cas c'est ce à quoi je crois. Bon, c'est très idéaliste. La réalité des choses, c'est que malheureusement, les personnes qui vivent dans la rue vivent dans un état délabrement de santé mentale terrifiant. Et bon, l'objectif de départ n'est pas toujours atteint. Néanmoins, on a quand même aidé presque 200 personnes à s'en sortir depuis 15 ans. Alors c'est une goutte d'eau, malheureusement. Mais enfin, c'est quand même quelque chose d'important.
Les grands entretiens de David Grimal.
Et finalement, c'est à partir de cette association des Margéniaux que les dissonances sont nées. Comment ça s'est
Non,
passé?
non,
Pas tout à
ce
fait.
sont deux choses différentes. Les Margéniaux, c'est vraiment une association que j'ai créée. Les gens en marge ont du génie, donc c'est vraiment ce qui est à l'église Saint-Leu à travers l'autre saison et qui est en charge de travailler avec des associations comme Au Captif, La Libération et d'autres qui travaillent sur le terrain avec des sans-abri. Et les Dissonances, c'est une autre association qui est celle de l'orchestre qui s'est développée au cours des années.
On parle de 2004 à peu près.
Voilà, Noël 2004.
Et c'est quoi? Vous vous souvenez de la première réunion, du premier concert, de la première répétition?
Bah oui, c'était des merveilleux musiciens. On était vraiment, c'était la crème de la crème qui se réunissait pour faire la symphonie concertante de Mozart, je me souviens. Et puis, c'était un programme viennois avec la nuit transfigurée, la petite musique de nuit. Symphonie concertante de Mozart et cinq pièces de Webern, je me souviens.
Et ce noyau dur existe toujours?
Oui.
Vous pouvez citer des noms,
Pas tous,
peut-être?
mais il y en a qui sont toujours là. Bah, David Gaillard est toujours là. Alexandre Gattai est toujours là.
Chef de l'Orchestre de Paris.
Voilà. Et puis Jérôme Fruchard, qui est au Concertgebouw d'Amsterdam maintenant, est toujours là. Bon, on était 20, aujourd'hui on est 100. Hein, donc, voilà.
À quel moment vous avez senti que ça correspondait à ce que vous cherchiez? Très vite? Tout de suite?
Très vite, ça a été. D'abord, ça jouait très bien. Je voyais que on arrivait à une qualité supérieure à ce que je voyais dans les orchestres habituels. Et donc, je me suis dit, non seulement c'est génial, mais en plus ça va marcher tout seul puisque c'est mieux. Et puis après, là, évidemment, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Je pensais que le milieu musical accueillerait ça à les bras ouverts. Ça n'a pas été le cas. Mais moi, j'ai tout de suite eu un plaisir fou à faire ça.
À quel moment les partenaires institutionnels ont réagi? C'était l'Opéra de Dijon, c'était avant.
Ça a été le Havre d'abord, le volcan au Havre. Jean-François Drian nous a mis dans son projet, en fait. Il a entendu parler du projet, parce qu'il y avait eu un grand article dans Le Monde 2. Et donc en 2006, on s'est retrouvé, enfin moi je me suis retrouvé artiste en résidence au Havre, et puis j'ai amené les dissonances avec moi. Et là, on a pu commencer à faire 2-3 programmes par an régulièrement, mais avec un petit orchestre. On était 25, on était 30. Ce n'est que en 2008, lorsque j'ai été artiste en résidence à l'Opéra de Dijon, qu'on a commencé à faire les symphonies de Beethoven. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait que l'ensemble Orpheus à New York qui jouait sans chef, et il s'arrêtait aux symphonies de Mendelssohn. Personne ne jouait une symphonie de Beethoven sans chef à l'époque. On a été les premiers à le faire. Donc on l'a fait, puis on s'est rendu compte qu'en fait, non seulement on avait beaucoup de plaisir, mais que c'était pas difficile. Puis après, pas à pas, on a ouvert les portes sur des répertoires de plus en plus difficiles et on a été des précurseurs de quelque chose qui maintenant se développe de plus en plus.
Écoutez le début de la 4e symphonie de Brahms. On écoute juste le début et vous me dites comment on fait pour jouer une musique sans chef. Comment on fait pour cette respiration, pour que tout le monde respire ensemble? Celle du groupe des dissonances, ce qu'on entend.
C'est intéressant comme question, parce qu'en fait, ça pose une question qui est beaucoup plus profonde, dont je parlais avant, c'est quel est notre rôle? Est-ce que notre rôle, le rôle de l'interprète, est d'avoir une vision personnelle, ou est-ce que son rôle est d'incarner ce qu'est l'œuvre dans sa substance? Et donc je dirais que ce qui sort, quand on est 50, là on est 50... On respire ensemble, ça c'est facile. On se regarde, on se fait un grand sourire et puis on respire. L'œuvre, elle est incarnée par 50 personnes. Enfin, on voit la symphonie se déployer. On la comprend. C'est pour le public une aventure extraordinaire. On était au Festival Enescu il y a 15 jours, donc avec ces deux grands programmes, avec un orchestre vraiment beaucoup plus important, avec Daphnis, le Sacre, etc. Bon, le public qui a eu accès pour la première fois dans cette salle de 4000 places, à cette aventure, au milieu de cette série des grands orchestres, donc où ils ont les plus grands orchestres du monde, dirigés par des chefs, et tout d'un coup, on les a conviés à une expérience différente. Et ils ont vu une communauté en face d'eux. Ils ont reçu directement la musique incarnée par 100 musiciens, qui se regardent, s'écoutent, dialoguent et incarnent l'œuvre qu'ils sont en train de jouer. Et donc, la question que je me pose, c'est comment est-il possible que 50 personnes partent et jouent à la baguette? Parce que ça, c'est pas organique. C'est pas naturel. Comment est-il possible, dans les concours de recrutement des musiciens d'orchestre, de demander à quelqu'un de jouer 1 minute 30 des traits d'orchestre sans orchestre et juger de quel musicien on a en face de soi? Ça, c'est absurde pour moi. Comment est-il possible de savoir, quand on va recruter quelqu'un pour toute sa vie, que ça va marcher? C'est absurde. Donc, je dirais que si on posait la question à l'envers, un peu la démonstration par l'absurde que je suis en train de faire, pour moi, il est très naturel de regarder les gens avec lesquels je partage la musique, et dans la manière dont on va se regarder, la manière dont on va respirer, il y a déjà la beauté de cette musique, parce que chacun a tout son espace. Et justement, c'est la place de l'individu dans la collectivité aussi qui est une idée forte, de l'intelligence collective contre... Aujourd'hui, on pourrait dire que la solution à l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence collective. c'est la manière dont on va se servir d'un outil, plutôt que d'être dépassé individuellement par un outil quantitatif. Et la métaphore de cet orchestre et de cette respiration, c'est justement l'intelligence collective.
Alors que Karajan dirigeait les yeux fermés,
mais
maîtrisait la...
Karajan dirigeait pour la caméra qui était en train de le filmer.
Des amis d'ailleurs, personnels. Vous les voyez en dehors de la scène, les musiciens des Dissonances?
Pas forcément. Non, pas forcément. De la même manière que là, nous avons joué avec des jeunes musiciens qui n'avaient jamais joué avec nous, qui sont rentrés comme des poissons dans l'eau, dans quelque chose qui était tout à fait naturel pour eux en réalité, et qui était le prolongement de ce qu'ils développent en eux-mêmes dans leurs études.
Est-ce qu'il y a des propositions de musiciens qui vous ont surpris? Ou vous avez fait autre chose que ce que vous imaginiez de l'œuvre? Un exemple concret?
Non, mais moi, j'imagine rien, en fait. Chaque concert va nous mener ailleurs. Je ne cherche jamais à reproduire quelque chose. Jamais. Je ne vois pas l'intérêt. Et c'est impossible, d'ailleurs. On ne peut pas respirer deux fois de la même manière. On n'est pas composé des mêmes cellules à trois jours. D'un intervalle, l'histoire du monde a changé. Donc on n'est absolument pas dans la reproduction. C'est aussi un reproche que je fais à l'industrie de la musique et à l'organisation du monde musical institutionnel. C'est la nécessité de l'efficacité et donc la reproduction du même modèle qui forcément, comme des photocopies, s'appauvrit au fur et à mesure qu'il se reproduit. Je ne peux pas avoir de surprise, mauvaise ou bonne, puisque de toute façon, je dirais que je suis dans la disponibilité. Voilà.
Vous avez horreur de la routine, de la répétition, du mécanique? C'est ça votre hantise profonde?
Je ne suis pas de hantise, c'est juste pas possible.
Le Sacre du printemps de Stravinsky, porté par l'engagement et l'intensité de chacun des musiciens de l'ensemble Les Dissonances de David Grimal. C'est ainsi que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens, une émission réalisée par Gilles Blanchard, prise de son Laurent Macchietti, mixage Claire Levasseur. Suite de ce portrait demain à la même heure pour un quatrième épisode. Les Grands Entretiens sont à retrouver en podcast sur le site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.